Bon ben bonjour à tous. Donc du coup, nous sommes en live. C'est parti pour le nouveau webinaire numérique Icimo. Donc on va attendre quelques instants que les gens arrivent et se connectent et puis on pourra rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tout le monde va bien? Quelle est la météo chez vous? Ici, il fait pas très beau à Paris, dans le 93 en tout cas.
Ouais. Dans le 75, il fait super beau.
92 aussi.
75, parce que moi, je suis dans le 9e, c'est un peu couvert.
Hein. Oui, mais le 9e, c'est déjà le nord. Donc, voilà. Tu viens à la porte de Versailles, ici, il y a le soleil et tout, c'est beau.
Bon, mais ça devrait arriver alors.
Bon, si juste le temps que les gens arrivent, on prend encore une ou deux minutes. Est-ce qu'il y a une actu que vous voulez partager, que vous avez lu ce matin dans votre veille? Est-ce qu'il y a un truc fort qui vous a marqué? C'est vrai qu'avec la période du mois de mai, c'est pas simple de suivre l'actu, mais il y a un truc qui vous a
non,
marqué.
L'actu, c'est qu'on a une journée de cinq, une semaine de 5 jours.
Ah, toi aussi, tu
et,
t'es
voilà, c'est que c'est un truc incroyable, quoi.
Enfin.
Parce que ceci n'est pas un entraînement.
C'est ça, c'est ça. Il faut reprendre le rythme, on est d'accord. Et toi, Valérie, tu as vu un truc qui t'a marqué en ce début de semaine?
Non.
Okay. Moi, je.
Le nouveau sujet sur les médias sociaux. Et toi, Yann?
Ouais, moi, j'ai vu un truc qui me. Alors, en ce moment, je prépare un cours sur le SEO à l'ère de l'IA là, pour essayer.
Excellent.
Mais c'est génial parce que je viens de le boucler, mais il faut que je le change tous les jours parce qu'il y a un nouveau truc toutes les 5 minutes. Et alors, ce matin, annonce de Apple, enfin, c'était dans. Alors, c'était pas dans Café Tech, c'est, je sais plus, dans le siècle digital, je sais plus lequel. Apple se prépare à la disparition de Google. Intéressant.
Ah oui, intéressant, ouais.
Ouais, ça, oui.
Il vaut mieux anticiper, en tout cas.
Donc, bon, ça, je pense qu'ils ont encore un peu de cash pour tenir quelques temps, hein. Mais enfin, c'est un peu comme le Titanic, hein, ça coule pas tout de suite.
Ouais, on est d'accord.
Oui, puis je pense qu'ils ont une capacité de réaction aussi, en fait. Donc, ça ressemble aussi aux gros effets d'annonce.
Ouais, ça je doute.
C'est surtout
parce que quand on voit, justement, alors j'ai fait une interview sur Google Overview hier avec Roland de Brabant de News. Et donc, ouais, c'était intéressant. Du coup, je suis penché un petit peu sur Google AI Overview, ce qui va arriver et qui est censé être la réponse à Perplexity. Et je pense que mon attitude par rapport à ce que j'ai vu de ce qui va arriver chez nous un jour quand on aura fini de discuter en France, ben, c'est la perplexité aussi.
Ouais.
Donc oui, ils ont des réponses, mais en fait, ils sont coincés d'un point de vue stratégique parce que s'ils ne font pas, ils se tirent dans le pied, mais s'ils font, ils se tirent dans le pied. Donc ils se tirent dans le pied. Donc je pense qu'ils sont vraiment typiques, d'ailleurs c'est pas moi qui l'avais dit, c'est Cécile Berzagne il y a déjà quelques temps, c'est très intéressant parce que Google aujourd'hui est véritablement pile poil dans le dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire qu'ils sont 100% dans la position où je les ai connus en 98, où tout le monde disait « ouais, il y a Google là-bas, moi, bon, enfin ça fait quelques chiffres, mais c'est pas grand-chose, puis de toute façon il y a Yahoo, on n'a pas besoin d'eux ». Yahoo qui avait refusé de les acheter, hein, refusé d'acheter leur algorithme, parce que soi-disant, il n'y avait pas d'argent à faire sur les médias sociaux. Et aujourd'hui, je pense que Google est vraiment dans cette situation-là. Et tout ça, ça a un impact par rapport à la saturation des audiences, parce que...
On va parler justement...
Je pense que ça se relie, tout ça. Hein, c'est... Ouais. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est intéressant. D'ailleurs, on va arrêter de s'emmerder, parce que ça faisait quand même 15 ans qu'on s'emmerdait, quoi.
Bah, merci Yann pour ce petit intermède pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On attendait justement que quelques personnes nous rejoignent pour ce live. Donc bienvenue à tous. On avait fait un petit intermède actualité et donc Yann nous partageait une actualité sur Google, sur Apple et sur l'IA. Donc bienvenue dans ce nouveau webinaire Numériquissimo. Je suis Émilie Marquois, social woman dans les médias sociaux depuis une quinzaine d'années et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'organiser ce nouveau webinaire qui portera sur comment lutter face à la saturation des audiences, vaste sujet. Et avant de vous présenter mes invités et nos experts, donc je voulais juste faire un petit rappel sur ce qu'est Numériquissimo. Numériquissimo, c'est l'annuaire des top acteurs du numérique en France. Donc, il y a eu déjà une première édition sur une idée de David Fayon. Et donc, on est en train de travailler sur la prochaine édition. Et donc, on vous en dira plus très prochainement. En tout cas, vous pouvez vous renseigner, avoir plus d'infos et nous solliciter en passant par numériquissimo.fr. Et donc, le sujet, comment lutter face à la saturation des audiences. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Gourvenec, qui est dans la team Numériquissimo. On a aussi Valérie Marche. Marc, merci. J'ai toujours un doute sur la prononciation. Et on a aussi Stéphane Truffem. Alors, chacun à vos tours, je vous propose de vous présenter très rapidement, puisque c'est vous qui allez explorer le sujet du jour. Et donc, c'est bien que les gens puissent faire votre connaissance. Valérie, tu commences ?
Oui, bien sûr. Donc, Valérie Marc, je suis autrice sur... mon sujet principal maintenant sont les médias sociaux. Et donc, j'ai écrit plusieurs ouvrages, en fait, pour les éditions du Dos sur ces sujets-là. Et je fais également du conseil et de la formation en communication sur les médias sociaux. Et en formation, je m'intéresse maintenant à l'IA. Donc, Yann vient d'ouvrir une porte sur le sujet de l'IA qui est fort intéressante.
Tu t'intéresses à l'IA ?
Heureusement, j'ai un peu dit.
Et l'automation, Stéphane, tu vas adorer.
Vas-y, du coup, à ton tour, Stéphane, de te présenter.
Eh ben, allez, également auteur. Voilà mon dernier livre, là, Quitter le salariat, Travailler en liberté, tout un programme. Également consultant content marketing et IA, comme il se doit. Et puis, j'accompagne également des VIOC à développer leur business. Sur le web, donc les plus de 45 ans, j'ai un programme de coaching là, que je suis en train de monter, d'ailleurs avec une belle cohorte qui me sert un peu pour tester le format. Donc on construit ça à plusieurs et en septembre, ça va dépoter, ça va être génial.
Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci Stéphane. Et Yann, dernier à intervenir sur ce tour de table, tu n'es plus à présenter, mais je te laisse quand même quelques minutes.
Oui, je vais quand même me présenter et je vais quand même signaler que Frédéric Cadvet nous dit qu'on n'est pas en ligne. Mais enfin, bon, pourtant si, on est en live. Donc, je ne sais pas ce qui lui arrive à Frédéric, il n'a pas trouvé le lien. Excuse-moi pour cet aparté.
Non, c'est bien.
Oui, Yann Gourvenec, donc j'ai fondé Visionary Marketing il y a 30 ans. ça commence à faire le dinosaure. Alors moi, je fais le dinosaure aussi de l'IA. L'IA, j'ai commencé ma carrière là-dedans il y a 40 ans, donc j'ai l'impression de faire une boucle. Bon, j'ai déjà traversé quelques hivers, et là, c'est intéressant parce qu'il se passe des choses, comme j'ai dit, ça remue et c'est en train de secouer l'environnement actuel du digital qui en avait bien besoin. Alors, du coup, on est obligé d'écrire une nouvelle version du marketing digital de @AZ, qui est notre dernier bouquin, avec Hubert Kratirov. Il faudra que je le rappelle, il faut tout réécrire en fait.
Ça va très vite hein, dans ce domaine-là, ça évolue très, oui. Très vite.
Moi, je me souviens ça n'allait pas vite depuis des années, on réécrivait la même chose à peu près tout le temps, mais là, c'est clair que les fondamentaux changent.
Même les fondamentaux. En tout cas, moi, je me souviens, oui, quand j'avais sorti mon bouquin sur Twitter qui s'appelait pas X à l'époque, c'était en 2012. Je me souviens qu'il était obsolète déjà une semaine après sa sortie. Donc, ça bougeait extrêmement vite. Merci, Yann. Et donc, du coup, je vous propose, on a plusieurs questions. J'ai plusieurs questions à vous poser dans le cadre de ce webinaire. Et la première question, c'est pourquoi la bataille pour l'attention est-elle devenue le nerf de la guerre ? Et donc, je donne la parole à Stéphane. Dans nos échanges, justement, pour préparer ce webinaire, tu disais qu'on était jusqu'ici très orienté trafic et qu'il faut maintenant travailler plutôt l'attention. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer un petit peu ce que ça implique pour les marques ?
Alors, effectivement, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, toutes les techniques, tactiques, marketing, étaient web marketing essentiellement, étaient vouées à augmenter le trafic, à faire du trafic, à générer du trafic. Donc, tu prends du SEO, bien évidemment, tu faisais du contenu pour être bien référencé sur Google. Pourquoi ? Pour être visible, que les gens cliquent, arrivent sur ton site web. Et après, tu as ton petit taux de transfo, tu transformais en lead ou directement en client. Pareil pour tes campagnes d'email marketing, pareil bien évidemment pour les ads. Et même, vous avez connu cette époque bénite où il suffisait de publier un lien sur un média social pour générer du trafic et des leads. Donc finalement, même si on disait il faut faire de la qualité, tout poussait à générer finalement ce trafic et finalement derrière faire de la quantité pour générer ce fameux trafic. Donc, très simple, hein, tu génères une audience de 1000 visiteurs par mois avec un taux de conversion d'1%, tu récupères globalement 10 contacts, 10 leads, 10 clients, tu augmentais ça, tu passais de 1000 à 10 000, t'en obtenais 100, Et donc, bah forcément, une belle incidence sur ton chiffre d'affaires et sur, ta, sur le progrès de ta, enfin, la croissance de ton entreprise. Donc, finalement, comment dirais-je, massification hein, de la prise de parole sur, sur le web, elle n'est pas si nouvelle que ça. Dès 2014, je crois que c'est Schaeffer qui parlait de content shock. Enfin, dans tous les cas, la notion de content shock date à peu près de 2014-2015. Et que disait finalement ce content shock ? C'est simplement qu'il y a plus de contenus qui sont produits que nous, matériellement, individuellement et collectivement, on peut le consommer. Donc déjà, on a vu un trop-plein de contenu dès 2014 qui fait que petit à petit, les audiences ont commencé à être tout simplement saturées, et au sens vraiment propre du terme, hein, saturées de trop de contenu. Bon, après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouvelles données, de nouvelles, finalement, le terrain de jeu est vraiment très, très mouvant actuellement, et on voit, et notamment avec l'IA, hein, donc on voit une accélération là aussi de la prise de parole que peuvent avoir les marques, même les freelances. Bon, tout ça fait que je pense qu'aujourd'hui, la génération de trafic est beaucoup plus compliqué à opérer que par le passé. D'ailleurs, j'en discutais avec des gros blogueurs français. Ils ont vu à peu près tous leur trafic divisé par 10. Hein, donc, c'est absolument énorme. Et je crois que c'est même HubSpot qui a annoncé que sur son blog, c'était 80% de trafic en moins. Donc, des chiffres complètement dingues à vérifier. Hein, je ne suis pas bien sûr de mon 80%, mais dans tous les cas, c'est que c'est énorme. Donc, voilà. Donc, ce jeu qui consistait à en faire toujours plus pour générer toujours plus de trafic, aujourd'hui, il touche à sa fin. Tant mieux. Alors, encore une fois, on parlait de qualité depuis plus de 15 ans. Bon, malgré tout, hein, c'était toujours cette recherche de quantité qui prenait le pas. Aujourd'hui, pour aller véritablement intéresser les audiences, il va falloir, je l'espère, enfin, véritablement s'orienter sur la qualité des contenus et donc faire quelque chose qui va être beaucoup plus appétant pour les audiences et quelque chose qui les marque, qui se disent j'ai envie de retourner écouter Valérie Marc parce que ce qu'elle me dit c'est super, ça m'a permis de progresser et donc je vais créer un lien avec Valérie, je vais peut-être la suivre sur LinkedIn, je vais peut-être la suivre sur Instagram, sur TikTok, alors je ne sais pas si Valérie est sur TikTok, peu importe, mais voilà, donc trouver des choses beaucoup plus qualitatives qui vont faire qu'il y a une sorte d'affinité qui va se créer.
D'accord. Et du coup, donc il y a le côté quanti, le côté quali, quantitatif, qualitatif. Et donc, du coup, l'attention des gens va pouvoir la cater justement avec la qualité du contenu plus qu'avec la quantité. Et donc, ça relève aussi des aspects visuels. Je ne sais pas, Valérie, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Parce que l'attention, du coup, elle se capte aussi à travers la forme et pas seulement le fond, puisque d'un côté, on a la qualité et de l'autre côté, on a le visuel. Je sais pas ce que...
C'est un tout, mais je laisse Valérie répondre.
Ouais. En fait, globalement, c'est un tout. Donc, on ne peut pas séparer le fond de la forme. Le point important quand on pense au fond, c'est, et je pense qu'on reviendra plusieurs fois en fait, dans le webinaire, mais le fond, c'est avant tout qu'est-ce qui va intéresser l'autre. Concrètement, la bataille de l'attention maintenant, les algorithmes nous forcent à essayer de la surpasser, la surmonter, tout simplement parce que si je n'arrive pas à créer un engagement sur mes publications ne vont pas être vues. Donc maintenant, c'est une question quasi existentielle en fait pour nos espaces sur les médias sociaux. C'est si je n'arrive pas à capter l'attention, si je n'arrive pas à faire que l'internaute reste sur ma publication, qu'il clique, qu'il s'engage, qu'il l'enregistre, qu'il commente, qu'il la repartage, ma publication ne va pas être vue. Donc, c'est pour ça qu'on passe d'un débat quantitatif à un débat qualitatif. Après, comment on arrive à faire ça? C'est effectivement multidimensionnel. Ça va être ce dont on parle. Est-ce que ça touche? Donc, est-ce qu'il y a de l'émotion? En fait, ça crée de l'émotion en face. Est-ce que c'est du contenu intéressant? Et bien évidemment, en fonction de mon business, en fonction de qui je suis, en fonction de ma marque, je ne vais pas forcément utiliser le levier de l'émotion et je peux utiliser le levier de l'utilité. Donc là aussi, en fait, on a une complexification en fait, des bonnes pratiques Parce qu'en fait, il faut avant tout, et on reviendra là-dessus, il faut avant tout en fait s'intéresser à l'utilisateur, s'intéresser à notre cible en fait pour avoir la bonne réponse. Et bien évidemment, on sait très bien qu'il y a des formats qui sont plus prompts à l'engagement que d'autres. Il y a des formats qui sont effectivement favorisés en fait par les algorithmes par rapport à d'autres. Il va falloir qu'on en tienne compte également.
Donc, tu penses notamment à tout ce qui est format court, format vidéo qui sont exposés là sur toutes les plateformes confondues, je dirais pas seulement en B2C, mais aussi en B2B.
Bah, format court, format vidéo, mais aussi format multi-image. On sait très bien que sur Instagram, si je poste une image, bah, ça ne va pas y avoir le même impact que si j'en poste plusieurs, si je fais un carrousel, et c'est la même chose sur LinkedIn, par exemple.
Donc
ça change. Alors, c'est ça, ça peut varier d'un média à l'autre. Et ça va varier aussi dans le temps. Ça peut varier par rapport à notre audience. Donc, c'est pour ça qu'il y a là aussi la connaissance qu'on peut avoir et des médias qu'on utilise et de notre cible. Avant tout, commençons par la cible, bien évidemment, mais de notre cible va être clé dans notre capacité à engager, en fait.
Mm-hmm, je comprends.
On peut arrêter le live. Hein,
on a tout dit.
Hubert qui a résumé mais vraiment... À la perfection, toucher les gens qui comptent plutôt que compter les gens qu'on touche.
Oui, c'est.
Voilà.
Encore aujourd'hui, après 15 ans dans les médias sociaux, il y a encore des mindsets, des façons de penser qui sont de cet ordre. Et donc, c'est notre rôle aussi, nous, de les accompagner pour que justement, il y ait ce basculement qui se fasse dans leur tête. Alors, on parlait de contenu court, de vidéos, d'images. Du coup, on pense forcément à cette capacité à mesurer et à évaluer justement cette attention. Est-ce que tu as des métriques, toi, Valérie, que tu recommandes de lister? Je dis souvent qu'il y a une dizaine de métriques à lister quand on veut faire un petit reporting, notamment sur les médias sociaux. Mais est-ce que là, typiquement pour l'attention, il y en a certains en particulier qu'il faut checker?
Bah, moi, en termes de métriques, je distingue toujours ceux qui vont nourrir un tableau de bord, qui vont pouvoir, donc de manière globale, pouvoir suivre l'évolution de mes résultats dans la durée, et auquel cas on va retrouver les métriques fondamentales que sont l'impression ou les vues, la portée, le nombre d'engagements. Mm-hmm. Donc ça, c'est OK, ça va nourrir mon tableau de bord, très bien. Mais après, en fait, je vais aller regarder dans le détail, parce qu'on sait très bien maintenant qu'en termes d'engagement, c'est pas juste l'engagement, donc le nombre d'engagements qui va compter, mais c'est aussi la nature de chaque engagement, en fait. Mm-hmm. Donc, toujours la même chose en termes de métriques, c'est quand on veut mesurer l'engagement, c'est pas seulement mesurer de manière globale, mais c'est aussi par rapport à une publication donnée. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le faire sur les top performeurs et ceux qui ont le moins bien performé en fait sur une période donnée, voir un petit peu l'impact en fait et le type d'engagement que j'ai pu avoir, combien j'ai pu avoir de commentaires. Et maintenant, en fait, quand on pense aux commentaires seuls, il faut non seulement quantifier ses commentaires, mais il faut aussi regarder la nature des commentaires. Parce qu'on sait très bien que les algorithmes, en fait, par rapport à un commentaire, ne vont pas évaluer de la même manière un commentaire qui a un pouce en l'air, dit « c'était top », à un commentaire qui va engager la conversation, en fait.
Donc, c'est plus long, oui, aussi.
Voilà.
Une teneur négative, ce n'est pas le même impact.
Ouais, exactement. Donc, vraiment, en fait, en termes de métriques, c'est distinguer les métriques tableau de bord des métriques qui vont nous permettre de comprendre en fait ce qui a fait le succès d'une publication, de manière à pouvoir ajuster en fait en permanence notre ligne éditoriale.
D'accord.
C'est essentiel.
Merci Valérie et Stéphane. Et du coup, Yann, toi, il y a un sujet qui t'interpelle justement quand on parle d'attention et on parle de saturation des contenus, c'est la question de l'authenticité. Est-ce que du coup, aujourd'hui, on peut capter l'attention sans tomber dans le piège de l'automatisation à outrance? Parce que c'est un vaste débat, ça pourrait même mériter un webinaire à lui tout seul.
Oui, oui.
On a parlé beaucoup d'IA, donc voilà, aujourd'hui...
On peut même enlever à outrance, si tu veux, parce que je ne comprends pas cette sorte d'obsession de l'automatisation. Il faut absolument tout automatiser, tout changer, tout se transformer en machine. Il faudra qu'on m'explique pourquoi. Il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose qui m'échappe aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on redécouvre. Et là, je suis d'accord, bien entendu, avec ce que vient de dire Hubert, mais aussi Olivier Rivière, qui a mis un commentaire un petit peu plus haut. Pour lutter contre la saturation des audiences, en gros, ce qu'il faut faire, c'est s'intéresser aux gens, s'intéresser. En fait, ce qu'il faut faire, excusez-moi du peu, c'est faire du marketing, du vrai marketing, pas à cette espèce de bombardement débile auquel on assiste depuis malheureusement une quinzaine d'années. Et finalement, ces changements qu'on voit aujourd'hui, eh bien, je trouve qu'ils sont rafraîchissants et ils sont intéressants. Ils vont créer une rupture très forte, bien sûr, dans la façon dont fonctionne Internet, mais en même temps, la façon dont fonctionne Internet est complètement débile. Donc, il faut absolument remettre tout ça sur les pieds et non pas sur la tête, comme ça marche depuis des années, avec cette sorte de course à la quantification idiote, à l'automatisation débile et à une course à l'audience sans intérêt, sans s'intéresser aux gens et revenir aux fondamentaux des choses, au bon vieux permission marketing de 1999. Enfin, il faut revenir, je dirais, à l'essence de ce qu'est le marketing. Dès que j'entends un marketeur qui me dit il faut mettre le client au centre de mes préoccupations, je cours dans la direction opposée, parce que c'est ça qu'il faut redécouvrir. Le client, il est toujours au centre des préoccupations. Il n'y a qu'une seule obsession du marketeur, c'est son client, c'est sa satisfaction et apporter une valeur ajoutée. Donc s'il n'y a pas de valeur ajoutée, on s'en fout, et donc si ça ne fait pas de visite, ben, tant mieux, ça nous fera beaucoup moins de casse-pieds sur Internet et ailleurs. Et puis, il faut redécouvrir la puissance de la connexion. Cette connexion, elle passe par Internet, mais pas uniquement. Mm-hmm. Et je pense qu'il va y avoir certainement un renouveau du marketing à trouver dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, qui sera à la fois quelque chose de nouveau et en même temps quelque chose qui va revenir à l'essence. Et j'espère d'ailleurs qu'on arrêtera ces courses de black hats là, sans arrêt depuis 20-30 ans, avec des gens qui écrivent pour des algorithmes ou écrivent pour Google et non pas qui écrivent pour des gens. Et voilà, il y a un travail à faire, et je pense qu'il y a beaucoup de travail quand on voit les sites web aujourd'hui. C'est catastrophique, quoi.
Et justement, tu parlais de valeur ajoutée. Est-ce que justement le fait d'être authentique et de ne pas produire forcément et d'utiliser l'automatisation, ça peut être une carte à jouer ou un plus ou un élément différenciateur aujourd'hui pour capter l'attention de ces audiences? Toi,
l'automatisation, c'est déjà en dehors du fait que tu risques de te faire blacklister de LinkedIn et d'ailleurs, c'est une ânerie sans nom. Enfin, je veux dire, on s'en fout d'automatiser. C'est pas ça qui est intéressant. Il vaut mieux parler à une personne qui est intéressante et qui est intéressée et à qui on peut rendre service et à qui on peut apporter de la valeur, plutôt que de parler à 100 000 personnes et faire le kéké sur Internet. On s'en fout de ça. Ça n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, je pense que c'est justement en évitant de chercher à faire le kéké qu'on peut avoir les 100 000 personnes. Parce que en étant plus authentique, eh bien, on est plus intéressant. Et si on est plus intéressant, on est peut-être moins intéressé aussi. Et du coup, on crée un meilleur lien. Alors, puisqu'on est dans les formules, hein, je vais ressortir la bonne vieille formule de Bernard Kova, c'est le lien importe plus que le bien. Mmh. Belle aussi, celle-là.
C'est à retenir. Merci Yann. Pour terminer sur cette première question, bah, on en aurait beaucoup d'autres, mais le temps file très très vite. Stéphane, peut-être tu nous parlais de Dark Social et de contenu affinitaire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des exemples à nous donner justement d'entreprises qui ont su capter l'attention ? Avec des canaux de niche.
À l'heure de la baisse de trafic drastique de HubSpot, quand on regarde leur chiffre d'affaires, ça continue à augmenter. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais de métriques, hein, je pense que la meilleure des métriques, c'est ça, c'est la croissance de ton chiffre d'affaires. C'est à peu près hein, la meilleure des preuves que, voilà, au-delà des j'ai des likes, j'ai des commentaires, j'ai des machins. Bon, je rejoins là pour le coup hein, l'avis de Yann, hein, tu peux faire le guignol sur le web et puis finalement, ça ne te rapporte pas forcément toujours grand-chose. Donc, des contenus affinitaires, ben, c'est un peu le switch qu'a fait HubSpot. Hein, encore une fois, cette belle marque-là nous montre un peu la voie. Ils sont allés sur des choses qui sont, qui sont un peu plus affinitaires, le podcast, de la vidéo. Je parle presque c'est du contenu presque charnel. Alors, chaque fois que je dis charnel, les gens sourient, voire rigolent, mais c'est ça, c'est quelque chose qui va connecter des humains, et ça, c'est super important. Et derrière, bien évidemment, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer, et d'où la notion aussi de dark social, hein, c'est que c'est « je t'ai vu, je t'ai écouté, j'ai écouté Valérie Marc sur un podcast qui est conduit par, piloté par Émilie, je ne connaissais ni Émilie ni Valérie, ça m'a plu ». Ça me donne peut-être envie d'envoyer un message privé à Valérie et lui demander des infos sur sa prise de parole. Comment mesurer ça? C'est excessivement compliqué pour des marques. Il y a des petites techniques, hein, malgré tout, pour tenter de le mesurer au mieux. Mais dans tous les cas, on voit que tous ces nouvelles relations qui deviennent invisibles par rapport à nos statistiques traditionnelles, prennent aujourd'hui une importance qui est capitale. Voilà. Et en plus, il y a un mouvement, là aussi, de fond, hein, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de traquer des visiteurs qui proviennent des réseaux sociaux. Il y a bien évidemment ces fameux cookies, les bandeaux pour savoir si on veut accepter ou pas les cookies. Bon, j'imagine qu'on doit être très, très, très nombreux à ne pas les accepter. Donc ça aussi, ça concourt finalement à cette baisse de trafic qui n'est que dans les chiffres, hein, enfin qui, une partie n'est que dans les chiffres, mais dans tous les cas, ça impose pour le coup un nouveau terrain de jeu aux marques. Et là, je rejoins Yann, hein, on vit une période, là, un instant de l'histoire qui est absolument génial parce que ça bouscule dans tous les sens. Voilà. Après, attention, moi j'attends de voir, hein, parce que de la qualité, on en parle depuis, encore une fois, depuis plus de 15 ans. Hein, donc, bon, et quand on voit des petits jeunes, par exemple, automatiser la production de contenu pour aller bombarder Google et gagner des positions, ça marche encore très, très, très bien. Hein. Donc, on verra ce que nous réserve le futur.
Alors ça peut être une question que je vais poser à la fin, ça, du coup. Donc, deuxième sujet, donc Yann, tu en as parlé, mais Yann en a aussi rapidement parlé, c'est tout ce qui concerne donc l'automatisation. Est-ce qu'elle rend ou pas le contenu moins impactant? Et je veux bien avoir votre avis sur le sujet. Alors, Valérie, peut-être sur les questions de personnalisation, est-ce qu'avec l'automatisation, est-ce qu'avec l'IA versus le sur-mesure et le coût humain, est-ce que ça fait une différence ou pas du tout en marketing?
Moi, déjà, je n'ai pas du tout envie d'opposer les deux notions. Je pense qu'une IA, une IA utile, c'est une IA qui est nourrie à la base, en fait. Donc, même quand on fait un prompt tout simple pour générer des lignes éditoriales, par exemple, ou un planning éditorial, c'est une IA qui va être nourrie avec une connaissance client aboutie, en fait. Donc, un travail sur les personas, on a compris la douleur, on a compris ce qui enchantait, en fait, notre cible, et on est capable de donner des éléments de contexte, en fait, pour faire travailler l'IA. Derrière, faire des scénarios complexes, parce que l'automation à la papa, où effectivement j'ai un message que je vais pousser, ce qu'on se dit là maintenant sur l'IA, l'automation, et ce qui se passe sur les médias sociaux, c'est ce qu'on se disait il y a 10 ans sur les stratégies emailing. En fait, on est en train de tenir exactement le même discours. Et oui, effectivement, quand je suis une marque qui a comme cliente la moitié des Françaises, bah, si je leur envoie à toute la moitié des Françaises le même email, il ne va pas fonctionner. Mais ça, c'est ce qu'on se disait il y a 10 ans, en fait. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, par des scénarios beaucoup plus aboutis, avec une connaissance fine, et ça, pour le coup, seule l'automatisation nous permet de servir en fait, des micro-cibles sans outils pour le faire, on n'est pas capable de le faire. Donc, pour moi, l'humain, il apporte une intelligence profonde. Et je rejoins Yann, c'est le marketeur. Le marketeur, depuis la nuit des temps, il doit rentrer dans la tête de son client, de sa cible, définir des cibles prioritaires, segmenter et pouvoir la comprendre intimement, en fait, cette cible-là. Si on ne fait pas ce travail-là, on va se retrouver, en fait, avec une manière d'adresser nos cibles prioritaires qui va être là pour le coup dictée pour l'IA, ça va être de la soupe et pas de la bonne soupe. Donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça que moi, je ne veux pas opposer les deux, mais c'est plutôt posons-nous la question de comment faire intelligemment, réellement intelligemment en fait, de l'automatisation, comment utiliser intelligemment l'IA pour nous aider à être plus efficients et pour nous aider à être plus niche, donc multiplier les niches, mais à être beaucoup plus précis, beaucoup plus affiné, en fait, par rapport à notre audience. Pour moi, la bataille, elle est là, en fait, avant tout. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie d'opposer les deux.
Non, mais c'est très juste et je te rejoins sur ce sujet. Stéphane, tu es du même avis. Yann aussi sur cette non-opposition justement et sur ce. Enfin, je dis souvent, c'est un binôme en fait, l'IA et l'humain, le marketeur et l'IA. Finalement, c'est un binôme. On travaille en synergie, en collaboration, un assistant. Est-ce qu'on peut continuer à le voir comme ça ou c'est trop caricatural?
Là, tu parles de l'IA générative, parce que l'IA, c'est tellement vaste que...
Oui, on est d'accord.
L'IA générative, absolument.
L'IA générative dont parlait Valérie, oui, du coup.
Je dirais... C'est une question très, très vaste et très complexe, je ne sais pas. L'automatisation, pour moi, c'est quelque chose qui est à éviter absolument. Voilà. Ça n'a pas de sens. C'est juste du bombardement. On a parlé de cette importance du client pour le marketing, pour moi, ça doit être, pour le marketeur, ça doit être une obsession. Et si le client n'est pas une obsession pour le marketeur, je ne sais pas à quoi il sert, le marketeur. Il faut vite le remplacer. Si c'est juste une machine, mettez une machine à la place. Et si l'objectif, c'est de bombarder le plus vite possible, dépêchez-vous de le remplacer par un automatisme. Je pense que... Si je prends un parallèle dans les études de marché, tiens, par exemple. Il n'y a jamais d'études de marché qui soient plus efficaces que une série de questionnaires, de questions non directives ou semi-directives sur un micro-échantillon de personnes à interviewer et la courbe d'expérience, elle est entre 10 et 12 personnes. Et ça, pour l'avoir fait des centaines de fois, je peux vous le dire, c'est vraiment toujours 10 à 12 personnes. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Au bout de 10 à 12 personnes, vous savez à peu près tout ce qu'il y a sur un sujet si vous avez posé les bonnes questions et que vous savez écouter. Donc, pourquoi on interviewait 350 000 ? Il n'y a pas besoin. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a qui le font. Il y en a qui font des semi-directives sur 350 personnes. Complètement stupide. Il n'y a pas besoin non plus de chercher à multiplier les contacts à l'envi comme ça, en se disant, parce que ça a été la logique de l'Internet, la logique du funnel, hein, qui est très nouvelle, hein, puisque c'est Sintelmo Lewis qui a inventé ça en 1895. Donc, on va avoir beaucoup de gens qui visitent, puis un peu moins de gens qui sont intéressés, puis un peu moins de gens qui cliquent, puis un peu moins de gens qui achètent, etc., etc. Et ça, cette logique-là, d'abord, elle date de 1895, donc il serait peut-être temps de la changer un petit peu, et elle est obsolète. Donc il n'y a pas besoin d'automatiser, parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de retrouver le contact. C'est ce contact qui est important, et qui est recherché aussi par les internautes, par les utilisateurs, par les clients. Et donc, est-ce que l'IA est un... Et tu es un assistant ou je ne sais pas quoi. Ce qui me semble frappant aujourd'hui, c'est dans l'utilisation des outils et dans toutes les publications plus ou moins idiotes qu'on voit sur LinkedIn, c'est que j'ai plutôt l'impression que c'est l'homme qui devient un assistant de l'IA. Mais rien ne vous oblige à utiliser un outil qui ne sert pas forcément à grand-chose. La vraie question à aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si c'est... obligatoire d'utiliser une technologie, c'est de savoir si elle sert à quelque chose et si son résultat est pertinent et s'il est efficace. Et ça, cette question-là, elle a l'air de faire pas mal défaut. Donc, je ne sais pas répondre à ta question. Parfois, elle est un assistant si elle me permet d'atteindre mon résultat. Par exemple, en ce moment, je l'utilise pas mal pour des actions de brainstorming. Parce que quand on est tout seul ou on n'est pas une grosse équipe, ça peut aider. J'arrive à mon résultat. En général, je n'utilise pas d'ailleurs ce qui a été donné, mais je m'en inspire. Là, c'est un assistant. Mais la plupart du temps, on va lui demander d'écrire un texte. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de Human Substance, je suppose. Là, non, c'est clairement pas un gain de temps. C'est pas un gain de qualité. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Voilà, donc, il y a des cas où... on peut l'utiliser, c'est valorisant. Et puis, des cas où on peut carrément s'en passer, il ne faut pas hésiter.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Tu as donné ton point de vue, c'est ce qui compte, justement, c'est l'intérêt de ta présence sur ce sujet, notamment. Stéphane, tu aimerais compléter ? Alors, du coup, la question automatisation, contenu impactant, est-ce que tu fais un lien par est-ce que quelqu'un, je dirais, de lambda est capable de faire une différence entre un contenu impactant, moins impactant, le fait que ce soit automatisé, pas automatisé?
Ah ben, de toutes les manières, après, c'est l'audience qui juge. Hein. Après, il y a des audiences aussi qui recherchent. Voilà, il y avait des gars qui passaient leur soirée devant la Starac ou je ne sais pas quoi. Bon, il y a des gens qui achètent chez Shane à tire-larigot. C'est que chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger. Donc, après, c'est un outil. Et comme toujours, il y a une bonne utilisation et des mauvaises. Et donc, libre à chacun de... Voilà, il y a des gens qui utilisent l'IA pour bombarder, encore une fois, Google pour générer du trafic. Bon, et derrière, ils font des chiffres d'affaires de cochons. Bon, qui on est pour juger de ça? Je ne m'inscris absolument pas là-dedans. C'est quelque chose que je ne recommanderai jamais, que je ne ferai jamais. Maintenant, si ça marche à l'instant T, je voyais un des commentaires là de Yann qui disait que HubSpot avait bombardé le web du SEO, mais c'était finalement Google qui nous poussait à ça aussi. Donc, on a un canal, ça fonctionne, on génère du trafic, on génère des leads, on génère du chiffre d'affaires, pourquoi s'en priver? Donc, moi, je ne peux pas répondre. L'automatisation, si elle est bien faite, je rejoindrai un peu, finalement, les aspects de Valérie. Why not? Si ça apporte une plus-value à nos audiences, pourquoi s'en priver? Donc, c'est un outil. Voilà. Bon, donc, tu l'utilises soit bien, soit mal. Et puis, après, in fine, c'est le consommateur qui jugera. Hein.
Ça marche. Ok.
Et concrètement, juste pour finir là-dessus, le consommateur a dans certains cas complètement jugé. Vous savez très bien que les scénarios d'automation fait n'importe comment, dont on a été inondé sur LinkedIn, ne fonctionnent plus, en fait.
J'ai eu des retours à ce sujet. Bien sûr. Des gens bien qui sûr. Ont carrément des posts LinkedIn pour dire arrêtez de m'envoyer un mail bien automatique, sûr. Un message automatique, il ressemble à rien, c'est pas personnalisé et en plus, je suis même pas dans la cible.
Ah ben, moi, c'est systématique aujourd'hui. Hein, je blackliste les personnes qui m'envoient effectivement des messages qui sont à la fois non sollicités et surtout qui sont pas ciblés. C'est fini. C'est que soit par mail, je les mets en spam. Alors que, en tant que marketeur, il y a encore quelques années, je disais bon, allez, bon, j'acceptais encore un petit peu. C'est pratique. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Donc, ça m'arrive très régulièrement de nettoyer mon feed parce que des gens m'envoient des messages privés sur LinkedIn que je n'ai absolument pas sollicité et qui ne correspondent pas à mon profil.
Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une certaine façon une marche arrière, c'est-à-dire qu'on, en fait, quand les outils d'IA, notamment d'IA générative, sont arrivés, tout le monde s'est engouffré dans la brèche et s'est dit on va les utiliser. Finalement, ça a été... oui, non, j'y vais pas. Il y a une vraie appropriation. Finalement, il y a aujourd'hui une sorte d'industrialisation des choses, puisque effectivement, on l'a vu dans les plusieurs études, plus de 80% des contenus aujourd'hui sur le net auraient été générés par l'IA. Donc, dans ce cas de figure-là, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse une sorte de retour en arrière et qu'on arrête d'utiliser à outrance, c'est le terme que voulait pas qu'on utilise Yann tout à l'heure, selon les cas de figure, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une sorte de retour en arrière ou alors qu'on avait besoin de passer par cette étape d'extrême pour justement se rendre compte que finalement c'était pas si intéressant que ça, ou c'est toujours le mot équilibre, trouver le juste milieu entre l'IA, l'automatisation, l'authenticité et l'humain? Est-ce qu'on est toujours dans cette recherche de l'équilibre ou pas?
Pour moi, c'est pas tant une question d'équilibre, c'est une question de savoir à quel moment on apporte de la valeur, en fait.
La valeur ajoutée dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà, donc on regarde le process dans sa globalité. On sait qu'on apporte énormément de valeur quand on a une connaissance de notre client, qu'on peut en extraire des enseignements qui vont nous aider à créer du contenu, des dispositifs qui correspondent à ce qui va fonctionner avec notre cible, en fait, de communication. Donc là, on apporte de la valeur en tant qu'humain. On a tous fait le test, hein, on fait un prompt, on n'apporte pas de matière. L'IA générative va produire quelque chose très, très rapidement, mais ça va être complètement générique et désincarné. C'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas ce qui va fonctionner in fine, on le sait bien, en fait.
D'accord.
Depuis le début du webinaire, on dit, plus on est incarné, plus on est proche, plus on est en affinité, en fait, avec notre cible, plus mieux ça fonctionne, en fait. Donc, comment est-ce qu'on...
Non, mais pour en revenir au sujet de la saturation, c'est évident que plus on va utiliser l'automatisation, plus on va les saturer. Hein. Donc, ça, c'est... Voilà, là-dessus... après, encore une fois, moi, je rejoins Valérie, je ne suis pas contre l'automatisation non plus. On peut en faire, dans certains cas, un usage qui reste cohérent et qui reste utile, ne serait-ce que, par exemple, pour mieux profiler, pour étudier de la data, étudier ne serait-ce que... Voilà, j'ai des commentaires. Suite à ce live, hein, imaginons qu'on ait 300 commentaires, je peux très bien automatiser une recherche finalement d'indices dans ces commentaires. Qu'est-ce que les gens ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien, moins bien. Bon, ok, on peut le faire à la main, on peut le faire automatiser. Est-ce que ça emmerde nos audiences si on le fait automatiser? Voilà, après, encore une fois, c'est automatisé, il faut quand même faire gaffe aux résultats, il faut contrôler, il faut donc, c'est toujours pareil, c'est
un outil, comment on utilise,
on l'appelle comme on veut, soit on a une utilisation intelligente, soit une utilisation débile. Bon.
Alors, c'est, cette histoire d'outils, enfin, c'est vrai, on est complètement en phase, et en même temps, c'est un peu faux, parce que ces outils d'IA générative, là, je ne parle que de l'outil, que des IA génératives, sont plus que des outils. Un outil, c'est un marteau. Si je tape sur un clou, il enfonce le clou. L'IA générative, elle va me faire un texte. La minute d'après, elle peut aller me dépiauter un fichier Excel et aller faire ce que j'ai fait l'autre jour, aller créer carrément un script PHP qui va aller analyser mon truc, sortir les URL, les tester en ligne, vérifier les codes 301, 404 et aller me faire une liste des URL qui sont uniquement ceux à corriger. Waouh, c'est plus qu'un outil, ça. Ça, c'est plus qu'un outil. Après, c'est mon usage. L'usage que je vais en faire va transformer ce bidule qui fait tout et n'importe quoi comme un outil. Mais là où il y a un danger, c'est quand les utilisateurs vont au-delà de ça et finalement finissent par sous-traiter leur cerveau pour faire de la soupe, ça c'est sûr, mais pour faire, voilà, sous-traiter leur cerveau, c'est là, et là c'est plus un outil. Quand on sous-traite son cerveau, c'est plus un outil.
Il y a une forme de course, en fait. Alors, si on revient sur la production de contenu, sur la saturation des audiences, il y a aussi cette course à produire plus, parce que justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la course pour écrire pour les algorithmes et non plus pour les humains. Les algorithmes demandent des contenus réguliers, des contenus qui sont formatés avec une certaine structure, avec certain nombre de hashtags, par exemple, pour la partie LinkedIn, pour ne donner qu'un exemple. Donc, du coup, il y a aussi cette course à la production qui oblige les gens à passer par ce type d'outil, alors que finalement, ce qu'on retient de vos échanges, c'est le côté qualitatif, valeur ajoutée qui compte. Et juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Yann, sur la partie humain, authenticité. D'ailleurs, je voudrais que tu nous parles du site, de l'initiative que tu as lancée sur les humains, les contenus 100% humains. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que je pense que ça peut intéresser et aussi ouvrir un petit peu les écoutilles et apporter de l'eau aux échanges et aux discussions qu'on a sur la saturation des audiences.
Oui, bien sûr, on a lancé un projet qui s'appelle humansubstance.com avec tout un tas de copains. Je vois David Fayon qui commente qui en est. Il y a Hervé Cabla, il y a Jérôme Bouteiller, j'en oublie plein, Pierre-Nicolas Schwab, Xavier de Masneau, etc., qui sont tous des blogueurs et des créateurs de contenu plutôt, qui sont sensibles à la nécessité de produire ce qu'explique David fort bien, c'est-à-dire d'offrir de la valeur. Et cette valeur, elle passe par l'expertise, par l'expérience, par l'anecdote, par le vécu. Et ce vécu, il ne peut pas passer par... un LLM. Le LLM n'a pas de vécu. Éventuellement, il peut produire des textes statistiquement corrects, et même parfois même plus corrects que certains humains, mais il n'a pas cette expérience, cette expertise, cette autorité, pas autorité au sens où je gueule sur les gens, mais autorité au sens où je fais autorité. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, dans ce qui est en train de se passer. C'est que... C'est pas un rejet de l'intelligence artificielle, encore une fois, j'ai passé ma vie là-dedans, donc je rejette rien du tout. Mais c'est un choix philosophique, en fait, qui est très important, qui est, en gros, qui consiste à dire, ce qui est le plus important, c'est pas ce que je dis, c'est qui le dit. Et quelle est la position qui me permet de le dire? Quel est le background qui me permet, qui me donne cette autorité de donner mon avis? Parce que donner son avis, tout le monde peut le faire. Il suffit d'aller sur X, il y a plein de gens qui donnent leur avis. Ça n'a pas forcément un grand intérêt. Si Joël de Roné donne son avis, ah, ça a peut-être un peu plus d'intérêt. Il n'est pas sur X, mais il a un intérêt. Quand Edgar Morin, qui a 105 ans et qui n'est certainement pas sur TikTok, écrit un bouquin, on s'arrête pour le lire parce que c'est intéressant. Et cet aspect d'autorité, à mon avis, c'est un peu l'effet inverse de ce qui est en train de se passer. On veut automatiser, ou tout au moins tout un tas d'individus plus ou moins pertinents veulent tout automatiser, et à mon avis, le résultat va être complètement l'opposé. C'est-à-dire que peut-être les audiences les plus intéressées, les plus pertinentes, les plus chaudes, on va dire, elles vont justement rechercher de plus en plus l'autorité, et non pas la quantité ou la masse ou l'influence, fermez les guillemets, mais ils vont chercher justement, je dirais, cette authenticité du contenu réalisé et produit par des gens qui sont pas forcément, qui prétendent pas forcément d'être plus intelligents que le voisin, mais qui ont produit ce travail et réalisé des choses sur le terrain, qui ont fait la preuve de leur travail et qui humblement vont partager leur savoir en ligne. Voilà, alors c'est peut-être un peu naïf, c'est peut-être un peu bisounours, mais moi j'aime bien les bisounours, donc j'y crois. Je crois à ce retour de l'authenticité.
Yann, on l'espère tous, hein, c'est que c'est un peu justement cette lutte entre la qualité et la quantité. Donc on va passer, espérons qu'on passe d'une recherche du trafic et une recherche d'attention. Et pour capter l'attention, il faut avoir un vécu, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir finalement ce terme d'autorité. Hein. D'ailleurs, on rejoint encore une fois l'acronyme, l'AEAT de Google, qui nous sert depuis finalement des années. Et au final, ça n'a rien changé. Hein. Quand tu vois des contenus qui sont purement SEO, bon, c'est pas souvent terrible. Donc espérons que finalement que c'est peut-être une opportunité, hein, que cette IA générative va tellement justement produire de contenu que ça va définitivement tuer la quantité au profit de la quantité. Mais ça, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, moi je l'aspire de mes vœux. Maintenant, on verra de quoi sera fait le futur.
Ce que ça m'évoque pour moi, en fait, cette conversation, c'est aussi le fait, alors là, pour le coup, notamment dans les entreprises B2B, le fait qu'on commence à voir se développer de plus en plus ce qu'on appelle la leader advocacy, en fait, le fait que, effectivement, des personnes qui sont
haut placées, entre guillemets,
qui peuvent avoir un apport important, en fait, ou qui ont une connaissance importante d'un sujet ou qui ont un rôle qui leur permet d'avoir une vision, en fait, sur un sujet particulier, prennent la parole et soient accompagnées, en fait, pour le faire au sein des entreprises. On sait bien que la parole de l'humain, là aussi, si on regarde les algorithmes, va être plus écoutée que la parole de la page de l'entreprise.
Et ça, c'est un sujet que je connais bien pour l'avoir pratiqué pendant presque 30 ans dans l'entreprise. Et ce qui est remarquable, c'est de voir à quel point, dans les 5-6 dernières années, 5-6 dernières années, à quel point toutes ces initiatives... auxquelles d'ailleurs j'ai participé pour certaines, de mise en avant des « subject matter experts », comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'autorité, celui qui fait autorité, ce n'est pas forcément le grand chef à plumes qui a 350 barrettes sur son uniforme, non pas qu'il n'est pas intelligent, ce n'est pas le sujet, mais celui qui fait autorité, c'est le « subject matter expert », c'est celui qui connaît son sujet parce qu'il est à l'intérieur de l'entreprise, quel que soit son grade. S'il a une connaissance, s'il a une compétence et qu'il la démontre, c'est lui qui fait autorité. Et ce que je remarque, c'est depuis 5-6 ans, c'est que les entreprises, ou avec celles avec lesquelles j'ai travaillé ou celles avec, malheureusement, avec lesquelles j'ai arrêté de travailler, justement à cause de ça, c'est que se sont détournées de cette logique. Alors moi, je travaille que en B2B, hein, donc, mais bon, la même chose peut s'appliquer en B2C. Et ils se sont détournés de cela pour revenir à la bonne vieille langue de bois, pour pas dire langue de carton, pour noyer l'Internet de choses plus ou moins intéressantes. Et quand c'était pas assez intéressant, ben on faisait un petit peu plus de pub, histoire de parler plus fort. Et ça, je pense qu'il faut arrêter ça. Mmh. Il faut arrêter. Il fallait déjà l'arrêter il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, je conçois que pour certains marketeurs, le travail autour de cette autorité de contenu était trop difficile. Ben, si c'est trop difficile, il faut se faire aider. Mais il faut y revenir parce que c'est ce que demandent les clients, c'est ce que demandent les prospects, c'est ce que demandent les auditoires au sens large. Et il faut y revenir, c'est impératif. Et dans ce monde qui est en train de changer avec l'IA, ça va devenir encore plus impératif.
Alors, moi, ce que je constate, pour revenir sur rebondir sur ce que vient de dire Valérie, ce que tu viens de dire aussi, Yann, et je rebondis sur un commentaire qui a été fait par Frédéric, qui disait que, en fait, il était de plus en plus compliqué de distinguer l'IA de l'humain, donc que ce soit pour des spécialistes, des experts, ou même des utilisateurs lambda, des créateurs de contenu, c'est de plus en plus compliqué de faire la part des choses. Donc, du coup, aujourd'hui, on a envie de se dire, et pourquoi pas les plateformes sociales ne feraient pas la part des choses en disant, je vais valoriser des contenus qui seraient 100% produits par les humains et pas versus des contenus qui sont produits par l'IA, il y a un peu d'humains ou beaucoup d'humains, il y a un peu d'IA, sauf qu'aujourd'hui, étant donné que c'est très difficile de les distinguer les uns des autres, sauf si on a un œil très averti, qu'on a beaucoup de pratiques, comment on fait aujourd'hui? Parce que justement, la saturation des audiences, c'est beaucoup de contenu, mais c'est aussi beaucoup de, sans faire de mauvais jeu de mots, ni enfoncer le flou, mais des mauvais contenus, je dirais, parce que du coup, on produit beaucoup en quantité, pas forcément avec la qualité qui va avec, mais on voit que les IA aujourd'hui, elles vont aussi dans le sens de la qualité. Donc, comment on fait pour s'y retrouver dans cet écosystème saturation, volume, qualité, et quel que soit son niveau d'expertise finalement aujourd'hui? Comment on fait?
Il faut faire la qualité.
Donc, finalement, c'est la qualité, mais la qualité, qu'elle soit produite par l'IA comme par l'humain, du coup.
Ben écoute, moi, encore une fois, hein, c'est, alors on l'appelle outil, méta-outil, tout ce qu'on veut, c'est que ce n'est pas le problème. Le seul juge de paix, c'est le client, c'est le consommateur. Donc, est-ce qu'on a pris du plaisir? Et d'ailleurs, on parle beaucoup de contenu comme si c'était du texte, mais finalement, on parlait d'Edgar Morin, mais j'en sais rien, Thibaut InShape, il fait des millions et des millions de followers sur YouTube. Donc, là aussi, tout ça, c'est très, très, très relatif. La qualité, ça peut être très qualitatif pour moi et pas du tout pour toi, Émilie. Donc voilà, il faut trouver à un moment donné ses niches, il faut trouver ses canaux affinitaires, il faut trouver ce qui rend véritablement service à nos audiences et chercher voilà à s'inscrire là-dedans plutôt que de bombarder. Et là, je rejoins Yann, hein, si c'est pour voilà utiliser l'automatisation pour bombarder à outrance et se dire bon bah tiens de toutes les manières j'ai mon petit taux 1% de taux de conversion, donc s'il fait 100 000 ou 1 million, bah forcément c'est toujours mieux 1 million. Bon, on peut, et beaucoup l'ont fait, beaucoup continuent à le faire. C'est visiblement pas notre optique à nous trois aujourd'hui.
Ouais, et globalement, on parle de qualité, on peut parler de pertinence aussi. Est-ce que ce contenu est pertinent par rapport à qui je suis? Moi, la cible.
Du coup, je vais te donner la parole en premier, parce que c'est vrai que l'heure tourne et qu'on va devoir boucler ce webinaire. Donc, on a beaucoup parlé d'IA, d'automatisation. Et du coup, pour conclure, est-ce que vous pourriez résumer en une ou deux minutes une réponse à la fameuse question « Comment lutter face à la saturation des audiences ?» Si vous deviez retenir une phrase, deux phrases, soit voilà, moins d'une minute, une minute, deux minutes grand max, et éventuellement, on peut parce que je sais que vous allez rebondir les uns sur les autres, mais voilà, si vous deviez répondre en quelques mots à cette fameuse question, vous pouvez aussi donner des mots-clés si vous le souhaitez, c'est peut-être plus simple aussi pour… On a dit beaucoup de choses dans cet échange, mais voilà, si chacun vous deviez résumer votre pensée. Pour donner des conseils, vous pouvez aussi donner des conseils à ceux qui nous écoutent. Valérie ?
Alors, moi, le seul point, c'est qu'il y a un point qu'on a peu évoqué en fait, dans le webinaire. Hein, le point des niches, qui est un point essentiel, mais on y a touché, en fait. Et il y a aussi le point, alors, notamment en B2B, de l'implication des collaborateurs. qui peuvent réellement aussi porter la voix de l'entreprise et qui seront plus écoutés. On l'a vu avec les leaders, mais l'ensemble des collaborateurs qui seront plus écoutés en fait que la marque seule, ça c'est un point important. Mm-hmm. Pour moi, le pendant des collaborateurs en B2C, c'est si on identifie en fait sur des niches de consommateurs ou des communautés particulières, ce qu'on appelle en fait les Maven, donc les gens M-A-V-E-N, qui sont un peu ces hyper enthousiastes qui ont envie de partager leur savoir, mm-hmm. et qui peuvent être aussi en fait des relais et des capteurs d'attention qu'on n'utilise pas suffisamment, tout simplement parce que c'est difficile en fait de travailler avec ces ultra ambassadeurs. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment en plus des points qui ont été évoqués autour de la qualité et de la pertinence en fait pour des cibles données, donc ce qui remonter le besoin de bien comprendre ses cibles. Il y a aussi ce point de l'implication des collaborateurs d'un côté quand on est en B2B et des ambassadeurs de l'autre quand on est en B2C.
C'est une catégorie de profil qu'on n'a effectivement pas évoqué jusqu'ici. Ouais, une capacité à produire du contenu donc qualité, pertinent, qui reste une audience et qui permet justement de sortir du lot par rapport à tout ce qu'on peut voir sur la communication, on va dire, institutionnelle, corporate de la marque.
Exactement.
D'accord, je vais essayer de résumer. Stéphane ?
Non, mais écoute, moi je pense que déjà le contenu corporate tel qu'on a pu le connaître est définitivement mort. Bon, ça fait déjà quelques années, hein, mais là, pour le coup, il est mort et enterré. La fameuse authenticité, toujours un petit peu de mal moi, avec ce terme, parce que finalement, qu'est-ce qu'on met derrière l'authenticité ? On n'est jamais véritablement authentique hein, quand on prend la parole, notamment sur les médias sociaux. Donc, c'est un terme avec lequel j'ai un petit peu de mal. Moi, j'en reviendrai à mon côté charnel, quoi. Est-ce que le contenu donne envie de contacter une Valérie, de contacter un Yann, de contacter une Émilie, de rentrer tout simplement en contact avec nous. Puis finalement, on fait du contenu aussi pour échanger. Donc, s'il n'y a pas d'échange qui se crée, au final, il n'y a rien qui se fait. Quoi. Donc, ce terme un peu de charnel et pour le coup, on le retrouve aussi beaucoup hein, à travers du podcast. Le blog a quand même perdu un peu de sa superbe parce que c'est un contenu qui est textuel, c'est un peu froid, on ne voit pas l'humain, même si on peut un peu quelque part le deviner à travers les mots. Mais malgré tout, c'est beaucoup plus facile quand on voit un visage ou au moins quand on entend des voix. Donc, on retrouve cet aspect charnel et je pense que ça, c'est important. Avec bien évidemment, et là je rejoins Yann, hein, il faut que ce contenu apporte quelque chose, mais ça peut être juste du divertissement aussi. Hein, c'est que c'est... Bon, voilà, pourquoi pas, quoi. Mais dans tous les cas, il faut que ça apporte quelque chose.
Alors, tu parlais du terme authenticité qui, toi, tu n'es pas trop fan. Est-ce que le terme singularité te parle plus ou pas du tout ? Parce que c'est pareil, c'est un terme qu'on revoit souvent dans les échanges autour de la création de contenu. C'est
ça peut être
mettre en avant sa personnalité, sa façon d'être, sa façon de parler.
Moi, je préfère ce terme de charnel, quoi. C'est vraiment.
Non, c'est intéressant.
On met ses tripes là, sur la table et on y va. C'est nous, c'est une expression qui sortent véritablement de nous, de nos compétences, de notre savoir-faire, de nos envies, de nos passions. Donc j'aime ce terme charnel. Quoi. Voilà.
Alors, je crois que je vais te donner un gage. Il va falloir que tu écrives un article complet sur LinkedIn autour du terme charnel. Je pense que ça intéresserait beaucoup de gens qui nous écoutent. Ça ferait matière à discussion. Yann, je te donne la parole justement si tu devais répondre rapidement à cette question. Comment lutter contre la saturation des audiences de nos jours, aujourd'hui ?
Alors, je suis d'accord avec Stéphane sur le terme d'authenticité. Je n'ai pas trouvé de meilleur, donc c'est celui que j'utilise, mais effectivement, c'est un terme qui pose problème. Alors, peut-être un peu moins en B2B, parce que finalement, l'authenticité est assez facile à définir dans ce domaine et elle se définit, là encore, je rejoins encore Stéphane, par opposition au contenu corporate qui, effectivement, il n'est pas mort d'aujourd'hui, il est mort d'il y a 100 ans. Il est toujours mort, en fait, mais c'est simplement qu'on continuait à le pratiquer parce que, en fait, beaucoup de marketeurs ne savent pas faire autre chose. Et c'est ça qu'il faut abandonner. Donc, il faut abandonner ce truc immédiatement, d'abord parce que ça dépense de l'argent bêtement et sans intérêt. Et il faut alors, moi, quand je parle encore pour le B2B, hein, qui est mon domaine de prédilection, aller se rapprocher des véritables producteurs de valeur ajoutée, de contenu qui sont les subject matter experts ou les mavens, comme dit Valérie, je suis d'accord. Est-ce que c'est sur le blog ou sur autre chose? Bon, je pense qu'on s'en fout, en fait. Le texte est mort. Si le texte était mort, plus personne n'irait lire les newsletters, alors qu'en fait, c'est en pleine explosion sur Substack, notamment, et j'ai jamais vu des textes aussi chiants à lire que sur Substack, et pourtant, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que c'est pas la forme qui compte, c'est le fond, contrairement à ce qu'on dit. Alors, en B2C, c'est un petit peu différent, mais j'aimerais bien aussi, par exemple, que dans certaines marques, eh bien, au lieu d'aller faire le clown, aller sponsoriser du tennis, eh bien, on s'intéresse aux clients qui veulent placer leur argent, par exemple. Parce que pour trouver des conseils qui soient un peu, qui aillent un peu au-delà de la superficie, eh bien, c'est un petit peu difficile. Or, pourtant, c'est leur métier. Et ils ont certainement des choses intéressantes à dire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On l'a fait en B2B, finalement, beaucoup plus qu'en B2C. Et il y a énormément de choses à faire. Donc, je pense qu'il y a un champ du possible ici qui est énorme. Le fait que les moteurs de recherche soient un peu en panne d'essence, eh bien, c'est une bonne chose parce que ça va peut-être arrêter tous ces clowns qui écrivaient pour des algorithmes des choses sans intérêt en enfilant des mots-clés. On va peut-être enfin pouvoir s'intéresser aux choses importantes qui sont les clients, les prospects, les audiences. Les gens qui sont finalement et qui nous font vivre, hein, et pour lesquels, en fait, on devrait être obsédé du matin au soir.
Bon, bah, c'était le mot de la fin. Merci, Yann. Donc, merci à tous. On arrive au bout de ce webinaire. Alors, je voulais juste vous permettre donc, de ne pas, enfin, vous suggérer plutôt de contacter Valérie, Stéphane et Yann si vous souhaitez poursuivre la discussion, notamment sur LinkedIn. Donc, ils sont faciles à retrouver. Et surtout, bah écoutez, comme les webinaires, les 12 défis du numérique ne sont pas terminés, on a d'autres webinaires qui sont prévus et donc rendez-vous la semaine prochaine, donc le 20 mai à midi également, cette fois avec Frédéric qui sera aux manettes et qui s'est entouré donc de Laetitia et Valérie pour aborder un autre sujet qui est qu'est-ce qu'une bonne relation client à l'ère de l'IA. Donc on va encore parler d'intelligence artificielle. Mais nous savons tous aujourd'hui, l'IA s'est incrustée un petit peu partout, donc c'est un sujet forcément qui reste incontournable. Et enfin, dernière recommandation avant de vous laisser, c'est de vous rendre sur numériquissimo.fr et de ne pas hésiter à télécharger la première édition du Top Acteur du numérique en France. Voilà. Et puis, si vous avez des noms à suggérer pour rejoindre la prochaine édition, pareil, vous trouverez le formulaire sur le site. Et si vous voulez le rejoindre vous-même, n'hésitez pas à soumettre votre candidature. Donc voilà, merci Valérie, merci Stéphane, merci Yann d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt. Et puis on poursuit les études et les échanges sur LinkedIn, les réseaux sociaux et offline peut-être à l'occasion. On ne sait jamais. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.
Merci Émilie.
Merci, bonne journée.